Vous écoutez France Culture et pour faire un très bon usage de la nature, eh bien écoutez le journal de la rédaction. Il est 12h30. Et le journal vous est présenté par Camille Magnard. Bonjour.
Bonjour à tous. Jérusalem-Est et l'espoir d'un apaisement qui semble encore bien mince autour de l'esplanade des mosquées. Israël a accepté de retirer les portiques de la discorde, mais le fond du problème persiste, nous dira notre envoyé spécial Étienne Monin. Analyse également avec notre invité, le spécialiste du Proche-Orient, Jean-Paul Chagnolo. Vers une réforme globale des allocations logement en France, 20% des ménages sont concernés. Le gouvernement veut aller plus loin que la baisse annoncée de 5 euros par mois sur les APL. Explication avec Fiona Mogadam. Le même gouvernement qui ouvre la porte à un accord avec Google pour récupérer les impôts que la firme n'a pas payés en France. Dossier suivi par Laure Verneau. Et puis avec Aurélie Kiefer, nous évoquerons aussi ce rapport du Sénat qui rappelle les inégalités d'accès à la culture dont sont victimes les personnes en situation de handicap. Et puis à 12h45, la grande table d'été. Qu'est-ce qu'on mange, Martin Kenéen?
On va manger en plein air, on va prendre le large et on va aussi se pelotonner dans cette grande table d'été aujourd'hui avec les installations au Havre et à Bordeaux d'Aurélien Beau. Et avec l'exposition intérieure dont le commissaire Gérard Wajman sera notre invité, c'est à l'IMEC, à côté de Caen.
Faut-il croire à la possibilité d'un apaisement au Proche-Orient? Benjamin Netanyahou a accepté hier soir de retirer les portiques de sécurité qui avaient remis le feu aux poudres la semaine dernière, entraînant des affrontements meurtriers autour de l'esplanade des mosquées de Jérusalem et dans toute la région. Et ce matin, donc, le démontage des détecteurs de métaux a commencé. Ils doivent être remplacés par des caméras de surveillance. Oui, mais déjà, les autorités religieuses palestiniennes ont indiqué qu'elles maintiennent le boycott du lieu saint tant que les Israéliens tenteront d'y faire la loi. Notre correspondant à Jérusalem, Étienne Monin, s'est rendu ce matin sur l'esplanade.
Habituellement, la porte de Bab el-Majlès est l'une des entrées principales pour la mosquée. Ce matin, la ruelle a des allures d'antichambre, avec des fidèles et des employés de l'esplanade qui attendent, assis contre le mur, après être sortis pour certains cette nuit vers 2h du matin, quand le retrait des portiques a été officialisé, raconte Moussa Kous de l'association des Africains engagée dans la défense de la mosquée.
On n'a pas de haut-parleurs dans la mosquée ici, mais avec les réseaux sociaux, les gens ont compris que quelque chose était en train de se passer, et en quelques minutes, il y avait 200 personnes ici dans la rue.
Devant la porte, il n'y a plus de détecteur. On voit par contre une grande barre métallique qui annonce la suite pour le responsable de l'association.
Ça, c'est le support qu'ils ont installé hier pour mettre les caméras. Et ça, c'est là où il y avait les détecteurs de métaux.
À cet endroit, le boycott continue. Ces Palestiniens refusent l'alternative imposée par le gouvernement israélien. Mahdi travaille sur le site de la mosquée.
Ça n'est pas vraiment une victoire, ça n'est pas assez. On a juste obtenu le retrait des détecteurs de métaux, mais il reste les caméras. Ces caméras, elles peuvent prendre des images de vous, comme si vous étiez nu. Il y a des femmes qui entrent sur l'esplanade, c'est un viol de la vie privée, donc on veut que les choses reviennent comme elles étaient avant.
Un peu plus loin, Porte des Lions, on croise aussi des Palestiniens qui continuent les prières de rue. Ils demandent le retour à la situation d'avant la crise.
Voilà pour l'ambiance ce matin donc dans la vieille ville de Jérusalem, un reportage d'Étienne Monin et nous accueillons tout de suite l'invité de ce journal, Jean-Paul Chagnolo, bonjour.
Bonjour.
Vous présidez l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient. Vous venez d'entendre donc avec nous le reportage d'Étienne Monin. Vous croyez, vous, à la possibilité d'un apaisement, à la volonté en tout cas d'apaisement de Benjamin Netanyahou?
Je crois qu'il a intérêt à trouver un compromis, il a commencé à le faire. Et donc je pense qu'on a une petite chance de trouver des solutions qui vont permettre effectivement d'apaiser, mais c'est rien n'est sûr, parce qu'en fait, il y a eu vraiment une incandescence là qui s'est produite en raison de ces actes qui, au fond, symbolisent quelque chose de très fort et donc il faut souligner, c'est-à-dire Jérusalem-Est est une ville occupée par les Israéliens. Et donc quand il y a un événement comme celui-là, quand il y a une séquence comme celle-là, eh bien ça révèle la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire que les Palestiniens se sentent occupés. Alors ça se passe beaucoup à Jérusalem-Est, ça se passe dans la vieille ville, et évidemment le point incandescent, c'est les lieux saints et c'est l'esplanade des mosquées.
Alors ce que vous dites, Jean-Paul Chagnolo, c'est que... Donc portique ou pas, vidéosurveillance ou pas, le contexte reste celui de l'occupation et ça, c'est pas prêt de changer.
Je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau de cette séquence dont on peut espérer qu'on va trouver une solution. C'est en train de se faire avec notamment l'appui de la Jordanie qui joue un rôle important en coulisses. Mais fondamentalement, cette séquence, eh bien, ne fait que révéler une situation. Et donc, il y a tous les risques de voir ça dans quelques temps, une autre séquence violente qui rappelle l'essentiel, c'est-à-dire à la fois l'occupation et puis la colonisation, c'est-à-dire la volonté de certains groupes nationalistes religieux qui sont assez largement représentés au gouvernement israélien actuel de prendre le contrôle de la vieille ville et puis d'essayer d'entrer sur l'esplanade des mosquées. Les portiques, s'ils ont eu tellement d'importance, c'est parce qu'ils symbolisaient cette volonté de grignoter encore un peu une forme de contrôle de l'espace sacré pour les musulmans.
Et qu'est-ce que la séquence, selon vous, dit de l'attitude des pays arabes autour des autorités palestiniennes? On a vu que la Jordanie avait joué un rôle pour tenter de trouver une solution.
Je crois que, si vous voulez, cette affaire, elle a ressoudé un peu les rangs assez dispersés et divisés des Palestiniens. Le président Abbas a pris des positions très claires alors qu'il est quand même assez discrédité auprès de l'opinion publique palestinienne. Et puis les États arabes qui essaient de ne pas trop s'engager dans la question israélo-palestinienne depuis quelques années même, dans une affaire comme celle-là, ils sont obligés à nouveau de se repositionner très clairement parce que l'opinion publique, évidemment, arabe et musulmane, ne peut pas accepter que les USA passent sous un contrôle d'Israël. Donc on retrouve toujours les mêmes questions. Et évidemment, la solution à terme, c'est ce qui a été évoqué dans beaucoup de négociations à Oslo autrefois, et c'est-à-dire en fait un partage de la ville où il y aurait une souveraineté israélienne et une souveraineté palestinienne. C'est très complexe, mais c'est évidemment, ça nous rappelle ça. Juste un mot pour dire que, imaginons une seconde, si des policiers palestiniens contrôlaient l'entrée qui permet aux juifs d'aller prier au mur d'alimentation, on verrait bien que ce serait absurde. Et bien là, c'est la même chose quand il s'agit de contrôle des Israéliens d'un lieu qui est un lieu palestinien.
Très bien, merci beaucoup Jean-Paul Chagnolot d'avoir exploré avec nous les enjeux, les perspectives aussi de cette crise au Moyen-Orient. J'ajoute ces propos du président turc Recep Tayyip Erdogan. Il appelle, lui, les musulmans du monde entier à visiter et à protéger les lieux saints de Jérusalem. Dans le reste de l'actualité, internationale, à 5 jours de l'élection très contestée de son assemblée constituante, le président du Venezuela, Nicolas Maduro, s'en prend aux États-Unis. Il accuse la CIA de préparer un complot avec le Mexique et la Colombie. Complot dans le but, bien sûr, de le chasser du pouvoir. Le directeur de l'agence de renseignement américaine, Mike Pompeo, s'est rendu de début juillet à Mexico, à Bogota, où il aurait, selon Caracas, évoqué une transition politique donc au Venezuela. Le coup de rabot de 5 euros par mois n'était donc qu'un ballon d'essai. Le gouvernement, Philippe, veut s'attaquer à présent en profondeur aux allocations logement. Dès cet automne, les aides au logement vont faire l'objet d'une réforme globale. C'est le ministre Jacques Mézard qui l'a annoncé ce matin. C'était au micro de nos confrères de RTL.
Nous avons un budget d'APL de 19 milliards d'euros. Un budget global d'aide au logement de 30 milliards d'euros, ce qui est... je dirais le record en Europe, avec en corollaire pas suffisamment de logements et des loyers trop importants. Il y a donc un problème. Madame Fack, qui a fait vraiment les études les plus costauds sur cette question depuis de longues années, a indiqué, après toutes ces études, très clairement, que quand on met 1 euro de plus sur l'APL, ça fait 78 centimes de hausse des loyers. Il faudra bien sortir de ce système qui est pervers.
Système pervers, donc, dit le ministre Mézard. Bonjour Fiona Magadam.
Bonjour.
Système pervers peut-être, mais des allocations sur lesquelles comptent des millions de Français, d'un point de vue politique et surtout social, c'est une réforme très lourde qui s'annonce.
Oui, parce que les aides au logement concernent près de 20% des foyers français, soit 6 500 000 ménages. Dans l'aide au logement, il y a donc l'APL, aide personnalisée au logement, dont bénéficient notamment 800 000 étudiants, l'allocation de logement familial et l'allocation de logement social. Ce sont donc toutes ces aides qui vont baisser de 5 euros par mois à partir d'octobre et qui doivent faire l'objet d'une réforme globale à l'automne. La baisse des aides au logement, ce n'est pas nouveau. C'est une mesure souvent évoquée, notamment sous François Hollande, jusque-là jamais appliquée. Il faut dire que l'annonce a provoqué un tollé chez les associations, mesure injuste qui va pénaliser les plus modestes. 5 euros, c'est parfois ce qu'il reste à certaines familles à la fin du mois quand elles ont payé toutes les factures, dit l'Union sociale pour l'habitat. S'ajoute à cela le nombre de personnes pauvres qui progresse. Plus d'1 million ces 12 dernières années selon l'Observatoire l'Observatoire des inégalités. Mais le dispositif d'aide au logement est considéré par le gouvernement comme peu efficace. Son coût de fonctionnement est très important, 600 millions d'euros. Et les bailleurs profiteraient de ces aides pour augmenter les loyers, d'où la nécessité de la réforme pour le gouvernement. L'association de consommateurs CLCV propose, elle, de plutôt suivre les recommandations de la Cour des comptes pour faire des économies, c'est-à-dire supprimer les dispositifs fiscaux pour encourager l'investissement immobilier locatif qui coûte 2 milliards d'euros par an à l'État.
Fiona Mogadam, merci à vous. Le même ministre Mézard chargé du logement donc précise par contre qu'il n'est pas favorable à un arrêt brutal des aides aux propriétaires de logements. La loi Pinel, qui incite à l'achat de logements neufs pour les louer, donc il n'est pas favorable à la suppression de ces avantages fiscaux. Mieux vaut un bon accord qu'un mauvais procès. Ça, c'est le ministre des Budgets publics, Gérald Darmanin, qui le dit. Il ouvre donc la voie à un règlement à l'amiable avec le géant du net Google, la firme californienne qui refuse de régler son redressement fiscal en France, soit un peu plus d'un milliard d'euros. La justice française lui a donné raison en première instance. Bonjour Laure Verneau.
Bonjour.
L'État fait donc appel de cette décision, mais ouvre aussi la porte à un accord. C'est sans précédent.
Oui Camille, vous l'avez dit, l'État va faire appel de la décision du tribunal administratif de Paris parce que c'est important pour nos finances publiques, mais c'est aussi une question de principe, a ajouté Gérald Darmanin. Et en même temps, le ministre reste ouvert au principe d'un accord transactionnel pour pouvoir encaisser les recettes correspondant à l'activité réelle de Google en France. C'est un vrai changement de paradigme parce que jusqu'ici, le fisc français ne négociait pas le montant des impôts, ne passait pas d'accord et restait dans la discussion concernant les règles applicables. Un changement de position assez emblématique donc de la difficulté de taxer les géants du numérique.
Et puis sur une question de principe, ça voudrait dire qu'une firme comme Google pourrait choisir ce qu'elle reverse et sous quelle forme et à qui ?
Alors pas exactement, puisque l'idée évidemment serait que Google et l'État français définissent ensemble les termes de la contribution. Le Premier ministre Édouard Philippe avait évoqué l'idée d'une contribution volontaire de Google dans les matins d'été de France Culture pour, je cite, « participer au développement culturel et économique, que ce soit dans la création artistique ou le numérique ». Alors un tel accord ne serait pas sans conséquence. Quelque part, ça validerait les pratiques de Google qui n'écope pas d'amende et ne modifie pas son montage qui lui permet d'échapper à l'impôt. Alors oui, sur le papier, cette transaction peut permettre d'encaisser plus vite les recettes fiscales générées par la firme. Mais d'un autre côté, c'est aussi prendre le risque que le montant de la transaction soit trop faible. Et ce risque est quand même assez élevé si on se rappelle d'un autre précédent, le bras de fer fiscal entre Google et la Grande-Bretagne, où Google n'avait payé que 130 millions de livres, une goutte d'eau pour ses revenus qui flirtent avec les 6 milliards de dollars dans le pays. Plus globalement, si les Amazon, Google et autres Facebook se mettent à signer ce type d'accord dans chaque pays, ces entreprises vont tirer parti de la fragmentation des règles fiscales sans que la richesse ne soit plus redistribuée. Se pose donc la question de la fiscalité de ces géants du numérique, mais aussi de l'harmonisation des règles fiscales au niveau européen d'abord et pourquoi pas international.
Laure Verneau, merci pour toutes ces précisions. Une étape de plus vers un procès pour fraude fiscale des époux Balkany. Le parquet national financier a demandé que les deux élus, les Républicains de Levallois-Perret, soient renvoyés en correctionnel. Sur cette mise en examen bien spécifique, il est reproché à Patrick et Isabelle Balkany d'avoir omis de déclarer une partie importante de leur patrimoine entre 2010 et 2014. La culture pour tous, beau principe, mais une réalité encore toute relative, en particulier pour les personnes en situation de handicap en France. Voilà pour le constat dressé par un rapport de la commission culture du Sénat. Un rapport présenté ce matin qui pointe les lacunes persistantes dans l'accès aux lieux, mais aussi aux pratiques culturelles. On en parle avec vous. Bonjour Aurélie Kiefer.
Bonjour.
Ce rapport présenté au Sénat pose d'emblée le sujet « Culture et handicap, c'est une exigence démocratique ».
Oui, des démarches réalisées en direction des publics handicapés profitent toujours à d'autres publics et la culture s'enrichit de la singularité de chacun, c'est ce que souligne le rapport. Les établissements publics, en particulier les musées et sites patrimoniaux, ont fait beaucoup d'efforts en termes d'accessibilité et des structures artistiques et culturelles se sont développées sur tout le territoire pour permettre aux personnes en situation de handicap de pratiquer l'activité de leur choix. Mais elles sont encore trop peu nombreuses, elles manquent de visibilité et sont souvent fragiles. Brigitte Gontier-Morin, sénatrice communiste des Hauts-de-Seine, co-rapporteur de ce rapport parlementaire.
Il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup d'initiatives, mais hélas, que constate-t-on ? C'est qu'il suffit qu'une personne arrête son activité, son impulsion, il suffit quelquefois de perdre un local, de perdre une subvention et tout s'arrête. Il y a donc besoin de repenser une organisation beaucoup plus concertée, globale, coordonnée, d'un maillage de réponses et surtout d'asseoir tout cela sur des financements pérenne, car je m'inquiète beaucoup des restrictions budgétaires qui sont demandées aux collectivités territoriales, car malheureusement, on sait bien que l'accès à la culture peut être la première victime de ces questions-là.
Le rapport pointe un manque de données précises sur les initiatives existantes. Il faudrait mieux les recenser pour les évaluer et les faire connaître. Il faut aussi favoriser l'entrée de la culture dans les établissements du secteur socio-médical en s'appuyant sur des artistes professionnels. Et il y a enfin de gros efforts à faire en direction des personnes handicapées mentales ou psychiques dont les difficultés sont encore mal connues des professionnels et donc peu prises en compte.
Merci Aurélie Kiefer. Un rapport du Sénat donc qui doit être prochainement présenté à la ministre de la Culture Françoise Nyssen ainsi qu'à la secrétaire d'État en charge du handicap Sophie Cluzel. Du côté du ciel, de belles éclaircies s'annoncent sur le quart nord-ouest, mais aussi sur l'Aquitaine cet après-midi. Les nuages vont dominer ailleurs, sauf autour de la Méditerranée où le vent va permettre au soleil de briller abondamment. Les températures afficheront cet après-midi de 16 à 21 degrés sur une large moitié nord du pays, de 29 à 32 sur le sud-est. Merci à François-Charles Domergue qui réalisait cette édition. Je vous retrouve à 18h pour le prochain journal de la rédaction.